à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Xavier Patier, bonsoir.
Bonsoir.
Xavier Patier, merci de participer à ce troisième entretien où nous allons continuer nos propos sur Blaise Pascal et en parlant cette fois-ci d'un événement tout à fait exceptionnel et fondateur dans sa vie. C'est cette fameuse nuit de l'extase que vous décrivez dans votre ouvrage, que d'autres ont parfois appelé une nuit de feu, c'est-à-dire que Blaise Pascal, le 23 novembre 1654, entre, c'est très précis, entre 10h et minuit,
et demi,
va avoir une rencontre avec Dieu, avec le Christ, tout à fait saisissante, qui va changer sa vie. Et c'est pas le seul, évidemment, on rencontre encore des gens aujourd'hui, et d'ailleurs de plus en plus, qui ont ce même genre d'expérience. Mais lui, il a cette expérience, ça va changer sa vie. Et alors, vous êtes intéressé à ce moment, précisément, et vous avez écrit votre ouvrage autour de ce moment. Expliquez-nous comment s'est passée cette rencontre, vous, avec ce moment chez Blaise Pascal.
Moi, j'ai découvert le mémorial dans un vieux livre que m'avait offert mon père il y a bien longtemps, où il y avait la reproduction de ce texte.
Parce que Blaise Pascal écrit, prend quelques notes, oui. Alors que c'était un homme qui avait une mémoire colossale. Donc il a peur d'oublier en quelque sorte ce qu'il est en train de vivre. Donc juste deux heures après, il prend quelques notes.
Il prend des notes. Comment on fait un nœud à son mouchoir? En fait, c'est assez intéressant parce que lorsque Blaise Pascal meurt, un domestique s'aperçoit que dans la doublure de son pourpoint, il y a un papier qui apparemment est cousu dans la doublure. Il découle la doublure et il extrait un texte. C'était deux papiers, l'un dans l'autre, un parchemin et puis un brouillon en papier, qui était daté. C'était effectivement du 23 novembre 1654 et dans lequel Blaise Pascal note une expérience mystique, une rencontre amoureuse avec Dieu. Manifestement, ce texte, il n'était pas destiné à être public, donc on est toujours un peu voyeur en le regardant, puisqu'il n'en a jamais parlé, ni à son confesseur, ni à personne, sa famille, personne, tout le monde ignorait l'existence de ce papier, qu'il a quand même gardé pendant 8 ans dans sa doublure.
C'est incroyable.
Et lui-même ne pouvait pas le relire, puisqu'il l'avait cousu. Donc apparemment, il voulait savoir, il voulait faire mémoire de cette expérience. Je pense qu'il avait peur d'oublier. Et de ce point de vue-là, il était dans une tradition, je pense... très souvent, les expériences mystiques, le plus mystérieux, c'est qu'on les oublie. Et en lisant ce mémorial où Blaise Pascal dit « Il a senti l'amour du Christ, joie, pleurs de joie. Il s'est rendu compte que Dieu n'était pas un Dieu de la morale, ce n'était pas le Dieu du philosophe et des savants, alors que lui était philosophe, mais le Dieu de Jésus-Christ. » En fait, Blaise Pascal a fait un peu comme beaucoup de mystiques qui, à un certain moment, ont besoin de marquer une date. Et alors, les convertis le font. Maurice Clavel, on sait qu'il est tombé de son canapé à 14h35, en 1965, il le dit. Frossard. À la minute près, il nous dit qu'on va dire Claudel, c'est pareil.
Claudel derrière le
18h25, derrière son quatrième pilier. Autrement dit, il y a quand même cela. Mais il y a chez Pascal, en plus, l'idée qu'il faut en faire mémoire parce que c'est périssable. Et je pense, par exemple, prenons l'exemple de la Vierge Marie qui a reçu la visite de l'ange Gabriel. C'est quand même une expérience mystique pas ordinaire. 12 ans après, elle ne comprend pas quand son fils lui dit « Je suis aux affaires de mon père ». On prend Jean-Baptiste. Il baptise le Christ. Il entend l'Esprit-Saint rendre témoignage. 6 mois après, il envoie ses disciples se renseigner pour savoir si Jésus est bien celui qu'on avait annoncé. Donc, on est fait comme ça, on est quand même extrêmement vulnérable à l'amnésie spirituelle. Et Blaise Pascal, je pense, sachant cela, a voulu marquer avec une date, une heure, ce que le Christ lui a dit à un certain moment de sa vie. Et c'était une affaire tellement personnelle qu'il n'en a jamais parlé à l'extérieur. Certains disent oui, c'était déjà une ébauche du plan des pensées. Non, parce que si c'était une ébauche du plan des pensées, le mémorial, il ne l'aurait pas mis dans sa doublure, il l'aurait eu sous les yeux. En fait, il savait qu'il l'avait noté, mais il ne pouvait même pas le relire tel qu'il l'avait mis.
Oui, et puis alors, c'est des périphrases.
Oui, hein. C'est des notes.
Je lis un petit bout, parce que dans votre ouvrage, évidemment, au début, hein, page 12, là, pour être précis, vous reprenez intégralement le texte. Et il y a une photo, d'ailleurs, alors, ce n'est pas l'original qui a été perdu, mais une transcription qui a été faite à partir de l'original. On lit « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, joie, certitude, sentiment, joie, Dieu de Jésus-Christ ». Enfin, c'est des périphrases, on a l'impression qu'il décrit de façon télégraphique.
Il a dû prendre la plume juste après, c'est-à-dire que, un peu comme, c'est un scientifique d'abord, Marcel. Ouais. Et donc, un peu comme il relevait les exercices sur la pression de l'air avec la colonne de mercure, il dit, voilà, j'ai une certitude, et c'était entre 10h30 du soir et minuit et demi, environ. Alors, il préfère en plus être juste qu'exact, il dit environ, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et effectivement, il a ressenti une certitude. Et c'est d'autant plus intéressant que cet homme, qui était un chrétien laborieux, mais fervent de certaine manière, n'a véritablement eu la révélation de l'amour de Dieu qu'après peut-être 25 ans de pratique de la religion catholique. Ça lui est tombé dessus au moment où il ne s'y attendait pas. Parce qu'on sait que quelques jours avant, il était allé voir sa sœur à Port-Royal et qu'elle avait dit qu'elle l'avait trouvé très, très désespérée, et très sceptique. Donc, au moment où il n'y attendait plus, il a cette révélation, cette espèce d'épiphanie. Et le miracle, c'est qu'il l'a noté et qu'on l'a retrouvé.
Et qu'on l'a retrouvé. Ouais. Dans la doublure de son pourpoint.
Exactement.
Pas après sa mort. Oui. Ça, c'est une histoire extraordinaire. Et donc, vous partez évidemment de ce moment, et dans votre ouvrage, dans votre essai, d'abord, vous nous montrez qu'après ce moment, ce n'est plus le même homme. Sa vie, il y a une rupture dans sa vie, on sent très bien, dans sa façon d'être, dans ses relations, dans ses projets, il change complètement, donc c'est un moment fondateur. Mais en même temps, vous essayez de décortiquer ces quelques phrases pour comprendre son cheminement intellectuel. Donc parlez-nous un peu de ce parcours qu'a pu mener Pascal après cette extase.
Alors, après cette nuit au paradis, d'une certaine manière, qu'il avait tellement peur d'oublier qu'il a donc transcrit sur un papier, joie, respecter, répété plusieurs fois sur le papier, il n'y a pas un changement spectaculaire dans l'emploi du temps de Blaise Pascal. On pourrait dire, tiens, il y a eu un avant-après. En fait, après la nuit de feu, on sait qu'il va passer 3 semaines à Port-Royal faire retraite. Et que là, sa sœur Jacqueline, qui était d'ailleurs elle-même religieuse à Port-Royal, dit, on retrouve un Pascal qui est un pénitent réjoui. C'est-à-dire que le Blaise Pascal dépressif des mois précédents devient un Blaise Pascal rayonnant. Bon, ça, c'est un premier indice.
C'est déjà une métamorphose.
Une métamorphose profonde. Et puis, on pourrait croire que là, il va se retirer au monastère, etc. Non, il fait retraite, mais pas jamais très longtemps. Et c'est quelques semaines après qu'il se met alors à travailler tous azimuts. Il commence la première provinciale après, non pas avant la nuit de feu. Et puis il fait le concours sur le cycloïde, enfin il fait des concours scientifiques, il continue à faire des inventions. Il crée le premier transport en commun du monde avec le carrosse à 5 sols à Paris. Donc il mène une vie d'entrepreneur, de théologien, d'écrivain, de polémiste, de scientifique, extrêmement foisonnante. Mais la différence, c'est que d'abord, une espèce de dépression qui habitait son esprit d'après les témoins d'avant a disparu, a cédé la place à une espèce d'espérance et de paix très triomphante. Et puis, deuxième chose qui est assez spectaculaire, c'est qu'il découvre l'obsession d'aider les pauvres. Le Blaise Pascal mondain des années précédentes aimait beaucoup l'argent et le confort qui allait avec.
Oui, il courait les salons.
Ouais. Et puis il vendait la pascaline. Enfin, c'est calculé, ouais. Il voulait faire fortune et d'ailleurs il a fait d'une certaine manière une belle fortune. Après, pas du tout. Et il dit pas j'aime la pauvreté parce que j'ai envie de me... Par masochisme, il dit j'aime la pauvreté parce que Jésus a aimé la pauvreté. C'est tout. Et il se met effectivement à distribuer ses biens, à vendre ses tapisseries. Son ami qui était le duc de Rouennais qui menait grand train, pareil, sous l'influence de Blaise Pascal, vend tout. Ils se mettent à mettre on a des gens qui deviennent du jour au lendemain des ascètes, qui continuent à avoir les mêmes personnes, mais qui ont une vie complètement différente.
Et alors vous, pour arriver à faire tout ça, vous allez, c'est assez fascinant votre façon de le suivre dans Paris. Vous allez chercher les lieux où il est passé, où il a été, où il a séjourné, et de façon assez rocambolesque d'ailleurs, vous allez même jusqu'à retrouver sa sépulture, sa tombe.
Oui, alors effectivement, on sait que Blaise Pascal, quand il est mort pas très loin de Saint-Étienne-du-Mont. Et il a été enterré à Saint-Étienne-du-Mont, sous pas très loin du maître-autel, dans un caveau qui était préexistant. Et effectivement, j'ai entendu dire, au moment où j'étais en train de finir mon livre, que quelqu'un connaissait la dalle qui pouvait être soulevée, qui permettait de descendre les degrés, qui amenait dans un caveau où, d'ailleurs, il y avait pas seulement Blaise Pascal, il y avait aussi Jean Racine, et le Philippe de Champaigne, le peintre. Ah
ouais.
Et peut-être Sassy, on n'en était pas sûr. Et j'ai eu l'occasion, effectivement, avec cet expert et deux ou trois autres personnes, enfin je crois qu'on était quatre en tout, de descendre. Et effectivement, on arrive en bas des escaliers, pas très loin du cœur de 2 mètres sous le cœur de Saint-Étienne-du-Mont. On voit un premier cercueil avec des ossements, parce que le bois est un peu évidemment dégradé. C'est Jean Racine, qui a été amené là. Il avait d'abord été enterré à Port-Royal, mais sa veuve l'avait rapatrié à Saint-Étienne-du-Mont, au moment où Louis XIV avait fait expulser les sœurs de Port-Royal, 1707. Plus au milieu, il y a Champagne, et puis après, il y a la tombe de Blaise Pascal, qui est toujours là. Et on voit le squelette de Blaise Pascal. Et quand les gens vont à la messe Saint-Étienne-du-Mont, ils sont 2 mètres au-dessus du squelette de Blaise Pascal.
Quel moment émouvant ça a dû être pour vous qui faisiez des recherches là-dessus. C'est une expérience extraordinaire. Et donc, je ne saurais trop, parce que votre livre est plein de richesses. Et puis, il est mené un peu sur ce mode enquête. C'est-à-dire que vous cherchez les lieux, vous allez chercher à comprendre le personnage en retrouvant un peu l'atmosphère, ou en essayant d'imaginer l'atmosphère du XVIIe siècle. Merci Xavier Patier pour ce témoignage et pour ce précieux ouvrage. Je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un dernier entretien où nous parlerons de Port-Royal.
Merci.